Yes, I Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Nous avons tous besoin de connaître et d'apprécier à sa juste valeur le motif de la venue sur terre du Fils de Dieu et la mission qu'elle a guidée. Heureusement, les Écritures nous donnent trois raisons pour lesquelles la parole de Dieu a été faite chair et a habité parmi nous. Toutes les trois se trouvent dans l'Épître aux Hébreux. Ce livre du Nouveau Testament contient des informations inspirées et très significatives quant à la nature de Jésus-Christ. Le thème de cet épître pourrait être résumé en seulement quelques mots qui sont « Jésus est digne de votre foi ». Dans le premier chapitre, l'épistolier déclare que le Seigneur est plus grand que les anges du ciel. Dans le chapitre 3, il dit que Moïse a été dans toute la maison de Dieu comme serviteur, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Le chapitre 4, quant à lui, établit le fait que le repos spirituel qu'offre Jésus n'a aucune commune mesure avec celui qu'offre l'Ancien Testament. Par ailleurs, le Seigneur Jésus est un souverain sacrificateur de loin supérieur à Aaron, de par la pérennité de son enseignement, affirme les chapitres 5 à 10. Le livre adressé aux Hébreux débute par une exaltation de la personne du Fils de Dieu, à la fois en tant que prophète, prêtre et roi. Il est le porte-parole final de Dieu vis-à-vis de l'homme. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure qu'il est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Aucun événement n'aurait pu égaler dans toute l'histoire du genre humain la venue sur terre de cet être sublime. Il est évident que quiconque était assez important dans les yeux pour être envoyé sur terre devait être vraiment digne, à la fois de l'estime de son père et de la vénération des hommes. La recherche du but de la venue sur terre de Jésus-Christ va non seulement faire connaître au cœur sincère la nature unique du Christ, mais va de plus faire jaillir un profond respect pour lui, un respect qui doit se traduire, se démontrer, s'exemplifier par une obéissance toute spontanée à ses enseignements. Pourquoi le Sauveur a-t-il quitté le ciel pour venir à nous? La première raison est donnée par le deuxième chapitre d'Hébreux. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Lorsque cette épître fut écrite, Christ avait déjà été couronné de gloire et d'honneur. Après avoir purgé notre peine par sa souffrance à la croix, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est donc inéluctable que le Christ est venu sur terre afin d'y souffrir pour le péché, lui juste pour des injustes. Ésaïe, le prophète, avait regardé dans le tunnel du temps et annoncé 750 ans environ avant Jésus-Christ la venue du Messie comme étant celui qui devait mourir par substitution. Le projet de Dieu en matière de sacrifice et de rédemption du genre humain était à ce point certain qu'Ésaïe put décrire le futur événement comme s'il était pratiquement en train de se dérouler. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Malheureusement, la multitude ne comprit pas que le Fils de Dieu était venu sur terre pour mourir. Le peuple comptait plutôt sur l'arrivée d'un roi terrestre. Ces gens ignorants du dessein de Dieu, mais zélés, tentèrent de s'emparer de Christ par la force afin de l'introniser. Mais à nous, l'évangile de Jean dit que Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le Seigneur est appelé le prince du salut. Et nous retrouvons ici le même mot grec signifiant auteur du salut, toujours dans l'épître aux Hébreux. De manière à ce que le Fils de Dieu puisse devenir l'auteur ou le prince du salut, il est évident qu'il fallait qu'il soit un sauveur à la fois parfait et complet dans son accomplissement. Un prix devait être payé pour le péché, et ce fut Christ qui, par sa mort, acquitta cette dette. Si Jésus est l'auteur du salut, et il l'est, il serait vain de penser que l'homme peut se sauver par ses propres mérites. Autrement dit, devenir l'auteur de son salut, ce fait devrait littéralement imprégner le cerveau humain. La notion d'une rémission, d'un salut, gagnée par une existence moralement bonne, pourvoyant aux besoins d'une famille de façon exemplaire, obéissant parfaitement aux lois et aidant les pauvres, doit littéralement être extirpée du cerveau de nombre de gens. Il s'agit là d'une tâche ardue, car des siècles d'enseignements erronés et de traditions religieuses nous en imprègnent. Non, l'homme ne peut se sauver lui-même par ses propres œuvres. Il faut passer par Jésus-Christ. Ceci n'implique évidemment pas que l'obéissance aux enseignements de Christ soit inutile, loin de là. Les Écritures déclarent que le Christ n'est devenu l'auteur d'un salut éternel que pour ceux qui lui obéissent. Le salut est accordé par grâce et par obéissance à Jésus-Christ, non par les bonnes œuvres, la perfection de notre état de citoyen, de parents, etc. Aucun fait n'est plus clairement et solidement établi, plus incontestablement inculqué par la Bible, que la vérité selon laquelle l'humanité ne peut être rachetée, sauvée de ses péchés, pardonnée, purifiée et sanctifiée que par le sang du Seigneur Jésus. Le Fils de Dieu est venu sur terre pour souffrir la mort pour tous. Et non seulement il est mort, mais il a de plus subi toutes les humiliations, l'agonie, l'horreur, la torture et l'amertume qui en découlait. Il est mort pour que l'homme puisse vivre. Il a souffert pour qu'il puisse être sanctifié ou se retirer d'un monde condamné en se consacrant à la volonté de son Dieu. Voyons la deuxième raison majeure de la venue sur terre du Christ. L'Épître aux Hébreux dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Par conséquent, cette venue sur terre avait aussi pour but de détruire et de délivrer. Détruire ceux dont la puissance allait jusqu'à la mort. Délivrer l'homme de l'esclavage du péché. L'affirmation suivant laquelle le diable a le pouvoir de faire mourir n'a rien de matériel en soi. Lorsque Satan parvient à faire pénétrer le péché dans le cœur de l'espèce humaine, il réussit également à y faire pénétrer sa conséquence directe, la mort. C'est la raison pour laquelle Jésus affirme que le diable a été meurtrier dès le commencement. Par sa mort, le Fils détruisit celui qui possédait ce pouvoir, c'est-à-dire le diable. Lorsqu'il mourut sur la croix, il donna à l'homme le moyen d'obtenir la rédemption de ses péchés. Et l'apôtre Pierre dit bien que c'est par le sang précieux de Christ que nous sommes rachetés. Cette rédemption signifie une libération de la loi du péché et de la mort. En bref, la domination du péché sur notre vie et dans notre vie. En 1 Corinthiens, il est stipulé que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. La mort représente une tragédie éternelle pour celui qui vit sous la loi du péché. Mais c'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire sur l'iniquité, parce qu'il nous a offert la rédemption, et cela par la grâce. La mort prend alors une signification toute différente pour le chrétien, car il n'est plus esclave d'une peur morbide à la fin de sa vie temporelle. Il sait évidemment que la mort physique est un phénomène irréversible, mais il sait aussi que cette mort n'est pas la fin de la vie. Il s'agit en fait du commencement d'un nouveau genre d'existence avec et auprès de son frère aîné, Jésus-Christ, le juste. Notre Sauveur est venu de la grâce du ciel pour pouvoir conduire à la gloire beaucoup de fils. L'être humain peut en effet s'enfermer, devenir prisonnier de sa peur de mourir, jusqu'à ce qu'il laisse enfin entrer le Seigneur Jésus dans sa vie, afin de le délivrer de cette obsession. Par son obéissance à Christ, l'être libéré du péché, et du péché qui enserre son existence. Par contre, s'il laisse Satan prendre la barre, il ne peut que s'enfoncer chaque jour davantage dans l'océan de l'iniquité, et la mort devient une horreur sans fin. Il voit s'éloigner l'occasion d'obéir à l'évangile de Christ et de se préparer pour l'éternité. Il est aisé de comprendre pourquoi la Bible nous exhorte avec tant de persistance à vivre dans le siècle présent, dans la sobriété spirituelle. La justice de Dieu et l'exemple de son Fils. Une seconde chance de salut ne se présentera plus à nous après la mort, où nous serons jugés ou bons ou mauvais. Cependant, pour le chrétien, l'existence est une question de vie pour Christ, et la mort une question de vie avec Christ. La peur est bannie pour laisser place à la sérénité. Paul s'exprime ainsi, « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » La puissance de Satan s'est vue mise en lambeau par le Seigneur, qui a ainsi rendu possible pour l'homme
résister avec succès aux attaques du prince des ténèbres, ou même de les supporter sans y succomber. Jacques dit aux chrétiens, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pierre, à son tour, décrit Satan comme étant l'adversaire du chrétien et ajoute, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Et Paul, en s'adressant aux membres de l'église d'Éphèse, leur dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan n'a plus pour serviteur que ceux qui ont choisi de manière délibérée de seconder l'ennemi de Dieu et de toute l'humanité. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Pour endurer la mort, afin que nous puissions jouir de la vie, une existence faite de pardon, de paix, de joie, d'idéal à l'état pur et d'espérance. Christ est venu pour être le seul intermédiaire entre Dieu et ses créatures. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Comme souverain sacrificateur, Christ est celui par qui nous pouvons avoir accès à Dieu. Le chapitre 4 du livre des Hébreux nous l'explique très bien. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Aucune prêtrise humaine ne peut prétendre se situer entre Dieu et l'homme. Son autorité ne peut provenir de Dieu, c'est impossible. L'Épître aux Hébreux dit encore, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Tant de choses restent à dire sur les raisons pour lesquelles Jésus a quitté le ciel pour venir sur terre. Mais le temps qui m'est imparti s'achève. Et pourtant, je voudrais tant partager avec vous tout ce que je ressens à ce propos. Mes prières s'envolent vers vous. Et vous qui m'écoutez et qui êtes peut-être très loin, venez vers Jésus. Il ne vous décevra jamais.
Alléluia, alléluia, alléluia. Thank you.